Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Dans la série Éclairage, nous recevons aujourd'hui Adrienne Bravo, qui est britannique. Vous êtes née à Plymouth, je crois. Diplômée de Cambridge, juriste, chercheur, professeur à l'université d'Adélaïde, en South Australia. Mais vous êtes surtout consultant à l'ONU, pour l'ONU du moins, dans les domaines de l'énergie, du développement durable, du droit de l'environnement. Dans le cadre de cette journée de l'environnement, nous sommes heureux de vous recevoir, Adrienne Bravo. En effet, vous êtes très au courant de la Convention de Kyoto, des réunions de Rio, de Cape Town, des groupes de travail sur le réchauffement, la question énergétique. Mais votre spécialité dépasse les préoccupations purement environnementales. En effet, 70% du réchauffement climatique sont liés au problème de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien, la relation entre ce réchauffement climatique et ce problème énergétique?
Bien sûr, Françoise. Le chiffre de 70%, ça dépend un peu des différents pays. Ça varie entre les différents pays. Par exemple, pour les pays développés comme les États-Unis, ça fait plus de 70%. Pour les pays en voie de développement, c'est un peu moins, mais en moyenne, il s'agit de 70%. Le fait, c'est que la plupart des émissions atmosphériques nuisibles sont provoquées par la production et la consommation d'électricité, surtout par les centrales basées sur le pétrole et le gaz naturel. Et si on peut réduire ce chiffre de 70%, c'est-à-dire en même temps on peut réduire les problèmes du réchauffement climatique. La Convention de Kyoto parle d'une réduction d'un peu plus de 5%. Et d'une façon très, très compliquée. Et toujours, il y a un problème de complicité par les différents États.
Est-ce que nous sommes capables de contrôler ce pourcentage et de le faire baisser réellement?
Bien sûr, parce qu'on peut produire de l'électricité maintenant par l'utilisation de différents types d'énergie, surtout par l'énergie éolienne. Si on peut augmenter la consommation d'électricité produite par les énergies renouvelables et réduire la demande par les moyens de réduction de consommation d'électricité, par exemple, par les moyens d'efficacité d'énergie, c'est-à-dire en même temps, on peut réduire le problème du réchauffement climatique.
Vous pensez que rien qu'en faisant ça, on peut résoudre en grande partie cette question du réchauffement climatique? Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène qui s'est enclenché, naturel, et que nous ne contrôlons plus du tout?
Vous voulez dire que le problème du réchauffement est provoqué par la nature, pas par les êtres humains? Peut-être pas, je ne sais pas, je ne suis pas un expert dans les affaires scientifiques. Mais pour moi, il n'y a aucune différence. Il y a un problème pour le monde à résoudre. Nous avons un problème du réchauffement climatique, il faut le résoudre. Ça ne fait rien si c'est provoqué par les êtres humains ou par la nature. Nous avons un problème, tout simplement.
Tout simplement.
Oui.
L'être humain était très content, du moins en Occident, car en développant l'énergie, il n'était plus tributaire, dépendant de la nature. Donc, d'un côté, on a l'énergie, l'homme, et de l'autre côté, on a le système terrestre qui réagit plutôt mal sur le long terme. Est-ce que ce combat est un combat perdu d'avance ou est-ce que nous avons une chance de rétablir la balance dans notre faveur?
Oh, je suis optimiste. Je pense qu'on peut rétablir la balance, mais il faut se souvenir toujours que la nature, il faut respecter la nature toujours. Quand on consomme les productions, quand on utilise les différents minéraux dans la terre, et donc, il ne faut pas surexploiter l'environnement. Mais si on est plus modeste dans sa consommation, ça va aller bien. Toutes les anciennes sociétés, comme par exemple les aborigènes en Australie, a très, très bien vécu depuis très, très longtemps en économisant de toutes les différentes ressources du monde. C'est nous qui surexploitons l'environnement.
Oui, mais si nous nous regardons, notamment dans les pays très développés occidentaux, je dirais, d'Europe et dans
Australie
l'Amérique
aussi.
Du Nord
oui.
et en Australie,
oui.
nous sommes incapables de vivre sans énergie.
Bien sûr, nous avons besoin d'énergie. Notre société est basée sur l'énergie. Mais on peut économiser sur l'énergie surtout. Il y a une grande différence entre les différents pays développés. La France utilise beaucoup moins d'énergie que les États-Unis, par exemple. L'Australie n'est pas très loin derrière les États-Unis, malheureusement. Mais il y a des choses assez simples qu'on peut faire de réduire la consommation. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. Il ne faut pas abandonner notre mode de vie, pas du tout. Il faut simplement simplifier d'un certain sens.
Oui, vous pensez que si tout le monde pense à éteindre l'électricité dans une pièce en la quittant, ça pourra diminuer le problème d'une façon notable?
Oh, c'est une petite façon d'aider à l'environnement, mais il y a des centaines de telles choses qu'on pourrait faire.
Oui.
Il faut faire l'ensemble.
J'ai toujours été très étonnée dans les écoles, notamment primaires australiennes, quand les enfants oublient de fermer les robinets ou d'éteindre l'électricité, ils sont punis.
Oui, c'est vrai, ça arrive. Mais le problème, est, à mon avis, c'est la chose la plus importante, c'est l'éducation en général. Surtout pour les enfants, il faut commencer à un âge très jeune, je pense, faire changer les choses. Mais l'éducation à tous les différents niveaux, surtout pour les adultes, il faut éduquer les consommateurs de choisir les produits électriques qui utilisent moins d'électricité, par exemple. Et puis, si ça arrive, c'est-à-dire que les produits, les autres produits ne seront plus faits. C'est simple que ça.
Oui.
On peut changer la société par son choix.
Est-ce que nous sommes condamnés à dire au revoir au charbon, à la tourbe, au pétrole fossile?
Dans le très, très long terme, mais pas vraiment pendant notre vie, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de pétrole et de gaz naturel sur la Terre, mais il faut retenir un peu pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ce n'est pas possible tout d'un coup de remplacer le pétrole par les énergies renouvelables, mais il faut le faire graduellement, petit à petit. Et pour nos enfants, ils auront besoin d'un certain sens d'utiliser le pétrole. Il faut garder un peu. C'est équitable.
Il est très étonnant de constater qu'en fait, jusqu'à maintenant, on a très, très peu exploité l'énergie solaire, l'énergie du vent,
oui.
l'énergie de la mer.
Oui.
Comment peut-on expliquer cette lacune? Car finalement, c'était assez simple. La France était recouverte de moulins et puis nous les avons
oui.
tous détruits parce que nous
oui.
avons découvert le charbon.
Oui,
alors,
et vous avez beaucoup de vent en France, surtout dans l'Ouest.
Oui.
C'est l'une des régions les plus venteuses en Europe.
Oui.
Je ne suis pas sûr, je pense que ça fait partie de la politique. En Australie, les producteurs de pétrole sont les grandes sociétés multinationales qui ont beaucoup d'influence sur le gouvernement, sont beaucoup subventionnées par les différents gouvernements. Par contre, les exploitants des énergies renouvelables sont de petites entreprises. En fin de compte, c'est l'influence qui compte. Mais il n'y a aucune raison pour continuer avec ce système et quelque chose doit changer. Et je suis sûr que ça va changer pendant notre vie.
Redevenons un petit peu juristes. Adrienne, vous travaillez sur une plateforme juridique sur laquelle les règles internationales, en fait, ne sont que des projets ou des invitations à agir pour les États. Les États
oui.
restent souverains
oui.
de leur politique énergétique.
Oui.
Les situations sont très variées.
Bien sûr.
Donc, peut-on faire confiance aux États pour améliorer la situation environnementale?
Ça ne dépend pas tout à fait, franchement. On peut faire confiance à certains États où il y a un vrai esprit de faire quelque chose d'important. L'Union européenne a un intérêt particulier dans ce domaine. On peut, je pense, faire confiance à l'Union européenne et les différents membres États de l'Union. Mais dans d'autres pays où c'est une réticence de légiférer dans ce domaine, franchement, on ne peut pas leur faire confiance. Et il y a beaucoup de raisons pour ça. On pense par exemple à l'Arabie Saoudite, où l'économie est basée sur le pétrole. Ils se sont menacés par la réduction de l'utilisation du pétrole et par les énergies renouvelables. Donc, c'est déraisonnable de penser qu'ils vont, de leur propre gré, adopter de telles mesures. Il faut de la pression internationale, mondiale, de faire changer le monde. Mais en fin de compte, je suis sûr que ça va arriver.
Oui. Pour l'ONU, vous êtes dans des groupes de travail, vous me l'avez expliqué tout à l'heure, avant que nous commencions cette interview. Vous revenez du Kazakhstan, qui produit du gaz oui. et du pétrole, je crois.
Oui.
Et dans quelques jours, vous partez au Nigeria, oui. qui est un des principaux producteurs de pétrole également. Donc l'ONU travaille beaucoup sur cette question pétrolière, finalement. Est-ce que le problème n'est pas le pétrole, d'une certaine manière ?
L'ONU s'intéresse à l'efficacité d'énergie, de réduire la consommation d'énergie. Et l'ONU a regardé les différentes données statistiques, chiffres sur la consommation, et l'ONU a remarqué que certains pays ont un système très inefficace, surtout les ex-membres de l'URSS, l'Union soviétique, dans le Kazakhstan. Et donc, l'ONU n'a pas beaucoup d'argent dans ce domaine et doivent choisir entre les différents pays. Ils ont choisi les pays où l'intensité d'énergie est très inefficace, comme par exemple le Kazakhstan.
Vous croyez à l'éducation pour la protection de l'environnement, l'éducation des citoyens, mais est-ce qu'il ne faut pas éduquer les leaders politiques et les États également ?
Absolument. Et c'est exactement ce qu'a fait récemment les Nations Unies, parce qu'ils ont eu l'idée de convoquer les pays anglophones d'Afrique au Cap pour une conférence spéciale sur les moyens de protéger l'environnement et de réduire la consommation d'énergie. Et ça a eu lieu l'année dernière au Cap.
Oui, la réunion de Cape Town a été très importante, je crois.
Oui. Mais il faut absolument, les développements normalement se passent en Europe ou en Amérique du Nord. Et les leaders en Afrique n'ont aucune idée de ce qui se passe dans ce domaine. Donc il faut les éduquer. Il faut les encourager de suivre le chemin que nous avons découvert.
Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu dur ? Par exemple, vous avez des pays qui, grâce à leur énergie pétrolière, accèdent à un certain confort ou à un certain niveau de vie dont ils rêvaient. Et puis, brusquement, les pays très développés leur disent « halte là, mon gaillard, c'est pas ça du tout, et retournez dans votre forêt, il faut plus consommer de pétrole, c'est un peu dur.
Oh, » Oui,
ça,
oui,
même.
C'est ça, vous avez raison, tout à fait raison, il y a une grande dispute entre les différents pays, par exemple la Chine d'un côté et l'Amérique de l'autre côté, parce que les Chinois disent aux Américains, c'est vous qui avez détruit l'environnement, et nous sommes en train de développer et on ne va pas abandonner le droit de développer. Donc, il y a besoin d'un compromis entre les deux groupes. Ça n'a pas encore arrivé. Mais il faut que ça arrive parce qu'avant, honte entre les deux camps, l'environnement va continuer à souffrir.
Oui. J'ai lu il y a quelque temps un rapport qui émanait de l'ONU, une étude, où il était question, dans des temps futurs non définis, de désétatiser les produits de base, notamment les produits qui donnent de l'énergie, le pétrole, le gaz, le charbon, de manière à les répartir d'une manière plus équitable et de moins saccager l'environnement. Où en est cette étude et ce projet de désétatisation ?
C'est un rêve, je pense.
C'est un rêve ?
Oui, c'est tout simplement un rêve, parce que la souveraineté gouverne tout dans ce domaine. La souveraineté est gardée jalousement par les différents États membres, les différents groupes, même par les pays en voie de développement, pas simplement par les pays développés. Et c'est, la souveraineté pose des problèmes sur le plan environnemental, mais c'est un principe de base pour la douane nationale et on ne peut pas l'abandonner tout de suite. À long terme peut-être, mais dans ce domaine, je ne suis pas très optimiste.
Dans très très longtemps.
Oui, très 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 longtemps.
Merci Adrienne Barbouk.
Je vous en prie.
Je rappelle que Adrienne Barbouk est professeur et chercheur en Australie et qu'il est consultant pour l'ONU. Il nous fait le plaisir de passer à Paris pour nous parler des problèmes d'environnement. Merci Adrienne. Vous trouverez sur notre antenne et sur le site internet deux travaux d'Adrienne Barbouk sur les lois énergétiques et les institutions et les arrangements concernant l'énergie renouvelable. Merci.
Merci à vous.